La voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio B. Aujourd'hui, la voix de l'autre prend des chemins plus intimes. Jusqu'à présent, dans notre chronique mensuelle, nous recevons des personnes en situation de handicap qui ont pu évoquer avec nous leur vie scolaire, leur chemin professionnel, l'accessibilité de l'habitat, de la voirie, leurs difficultés et leur potentiel au quotidien. Aujourd'hui, on va aborder une dimension plus privée, plus intime. En effet, aujourd'hui, je reçois Jennifer Fournier. Bonjour Jennifer.
Bonjour.
Aujourd'hui, donc, nous recevons Jennifer Fournier, maîtresse de conférences à l'Université Lumière Lyon 2, responsable du master référent handicap. Jennifer Fournier, vous êtes docteur en sciences de l'éducation. Vos travaux de recherche portent sur l'accès à l'intimité et à la liberté de connaître une sexualité pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que vous voulez bien nous parler de vos travaux de recherche, s'il vous plaît ?
Merci pour cette introduction, merci pour l'invitation, bien volontiers. Donc moi, mes travaux portent effectivement sur l'accès à l'intimité, à la sexualité pour les personnes en situation de handicap. Peut-être ce qui est important que je dise à cet endroit-là, c'est que je ne m'identifie pas comme une personne handicapée et je ne m'identifie pas non plus comme une professionnelle de l'accompagnement. Je suis entrée dans cette thématique avec quelque chose d'assez naïf, je crois, qui était de considérer que ces dimensions de la vie, de l'accès à l'intimité, à la sexualité, à la conjugalité, étaient des dimensions importantes pour moi et pour les gens qui m'entouraient. Et je me suis posé la question de qu'en est-il quand on a un corps ou un esprit qui fonctionne autrement ou quand on vit dans des contextes de vie différents. Et donc, je suis entrée voilà, de façon un peu naïve et je me suis d'abord intéressée à des auteurs, eux-mêmes en situation de handicap. Mon premier travail a été un travail sur des autobiographies. Ce qui fait que ces auteurs-là, qui étaient des personnes pour la plupart avec une déficience motrice qui circule en fauteuil roulant, ce qui a un peu du coup orienté mes travaux autour de ce public-là en quelque sorte, ces auteurs-là donnent à comprendre certaines dimensions de leur vie privée, de leur vie intime, des questions qui sont les leurs. Donc je suis entrée par cette porte des autobiographies avec la question de quoi je me mêle et à quel titre. C'était évidemment plus acceptable pour moi d'entrer par ces autobiographies puisque les auteurs racontent ce qu'ils souhaitent et que c'est beaucoup moins intrusif que d'aller poser des questions à quelqu'un sur sa vie intime,
vous
privée,
sentiez,
sexuelle.
Vous sentiez autorisée.
Je me sentais autorisée. Et puis, à l'issue de ce premier travail, évidemment, ces auteurs-là ne peuvent pas constituer, comment dire, ne sont pas les représentants de la vie quotidienne de plein de personnes en situation de handicap, et notamment celles qui vivent en établissement. Cette réalité de vie, en fait, elle n'est pas du tout représentée dans les ouvrages à partir desquels j'ai travaillé. Sauf que moi, ça m'intéressait quand même de m'approcher des expériences de vie des personnes qui vivent en établissement, parce que c'est une réalité de vie qui est très prégnante en France, compte tenu de l'histoire, compte tenu de la façon dont ça s'est construit, l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vivent dans des établissements médico-sociaux. Et j'étais assez intéressée pour aller comprendre et explorer ce qu'il s'y passe. Donc après cette première incursion via les autobiographies, j'ai réalisé des entretiens avec des personnes en situation de handicap qui vivent en établissement, qui sont non dépendantes pour les gestes de la vie quotidienne, qui sont donc accompagnées par des professionnels. Et très vite, je me suis dit, mais si ces personnes sont dépendantes et accompagnées par des professionnels pour les gestes de la vie quotidienne, alors elles et eux, ces professionnels, doivent aussi avoir quelque chose à dire de l'accompagnement.
Oui, on peut imaginer en effet qu'ils se questionnent au quotidien.
Et qu'ils sont confrontés à ces questions-là dans l'accompagnement qui est conduit. Et donc j'ai décidé aussi de réaliser des entretiens auprès des professionnels accompagnants. Ces premiers entretiens, C'était pas. Je pense que mon guide d'entretien n'était pas un très bon guide d'entretien. Alors j'ai été très gentiment accueillie par les personnes concernées qui étaient très intéressées pour parler de ces dimensions de la vie. Je pense qu'on n'a pas. Enfin, les personnes que j'ai rencontrées n'avaient pas fréquemment eu l'occasion de pouvoir dire leurs expériences autour de l'accès à l'intimité, à la sexualité, des questions qui étaient les leurs. Donc j'étais très bien accueillie. Mes questions étaient relativement mauvaises. Et donc quand il a fallu analyser leur discours, à la fois j'accédais à des. À des dimensions de l'existence qui étaient intéressantes et en même temps c'était très en surface. Les personnes avaient beaucoup répondu par oui ou non, mais parce que les questions que je posais étaient finalement trop éloignées des réalités de vie pour qu'elles soient vraiment pertinentes et qu'elles permettent vraiment de développer. Il ressort malgré tout un certain nombre d'éléments importants. La difficulté, peut-être je peux à cet endroit-là faire un peu écho à ce que disent les personnes concernées. Ce qui me semble important de retenir, c'est à quel point cette dimension de la vie, qu'est l'accès à l'intimité, etc., est vraiment une dimension essentielle. Et les aspirations premières, c'est rencontrer quelqu'un, vivre une grande histoire d'amour, éventuellement se marier, avoir des enfants. Et on se rend compte que ces souhaits ou que ces aspirations qui sont mentionnées par les personnes en situation de handicap, c'est finalement tout à fait ordinaire. Et quand on regarde les statistiques de l'INSEE hein, sur la vie en couple, la vie en famille en France, bah on se rend compte que la majorité de leurs concitoyens vivent ça, se rencontrent, vivent en couple, se marient dans des proportions très larges. Alors, j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais c'est des très grosses proportions au niveau statistique, et puis vivent ensemble et puis font des enfants. Donc
pas de différence à cet endroit-là pour les personnes en situation de handicap.
C'est des
terriblement humains.
C'est des aspirations totalement ordinaires. Voilà. Et donc les difficultés sont aussi totalement ordinaires. Les difficultés, c'est la difficulté à rencontrer quelqu'un, les difficultés liées au conflit dans une relation, aux séparations, aux mésententes, etc. Et là aussi, on se retrouve du coup avec des difficultés qui sont, de mon point de vue, relativement ordinaires.
On peut aussi en imaginer d'autres, puisque du coup, vous parliez de cette vie en établissement, et du coup, on peut imaginer sur... Enfin, comme ça, quand vous expliquez votre travail, je me dis bah, peut-être comment faire couple dans une institution, du coup, par définition, dans une collectivité, enfin, où on vit, même si chacun peut-être a son espace de vie. Est-ce que c'est autorisé de faire couple ?
Alors, c'est autorisé. Enfin, en tout cas, c'est interdit de l'interdire.
Ah, intéressant. Voilà,
on peut pas. Les responsables d'établissement ne peuvent pas interdire la conjugalité, la sexualité dans les établissements. Par contre, évidemment, il y a des contraintes qui s'exercent. Alors, peut-être dire à cet endroit-là. Donc, j'ai parlé des entretiens qui étaient relativement peu réussis. Du coup, j'ai pris l'option de recueillir la parole d'une autre manière en animant des groupes d'expression pour mon travail de recherche.
Et donc, des groupes d'expression des professionnels ou des personnes en situation
des
de handicap
résidents, des résidents et des résidentes. Des personnes en situation de handicap. Ce qui a largement transformé le discours que j'ai recueilli, puisque je ne posais plus de questions, ce qui était mieux. J'avais arrêté de poser des questions. Et les thématiques sur lesquelles les personnes souhaitaient discuter, c'est elles qui les choisissaient. Et donc, c'est là que j'ai pu accéder à un matériau et à des discours beaucoup plus riches qu'en posant moi-même des questions. C'est là que j'ai pu comprendre ce qu'on se disait précédemment sur l'importance de la rencontre, d'avoir des expériences du côté de la sexualité, de la conjugalité, etc. Et évidemment, dans ces groupes de paroles, dans ces groupes d'expression, s'énoncent aussi des difficultés spécifiques liées à la vie en établissement. La première difficulté qui revient tout le temps dans les groupes d'expression, c'est l'absence de confidentialité. Quand on vit en collectivité, tout se sait. Tout se dit, tout se sait, et il est très difficile d'avoir une vie pour soi, d'avoir une vie privée en dehors du regard, soit des professionnels accompagnants, soit des autres résidents qui vivent là. Et donc, les personnes elles-mêmes disent que c'est difficile de se projeter à avoir une vie intime, amoureuse et sexuelle parce que tout se sait et très vite. Et une petite anecdote intéressante, parce que dans ces groupes, quand les personnes en situation de handicap parlaient de ces difficultés liées à la confidentialité, je leur disais « oui, mais et vous ?» Quand vous entendez une rumeur, quand vous entendez un « on dit », qu'est-ce que vous faites ? Et là, souvent, il y avait un grand silence dans les groupes parce que, évidemment, les personnes résidentes étaient elles-mêmes la source de la diffusion de ces on-dit, de ces rumeurs. Parce que c'est aussi probablement une façon de fonctionner dans un établissement d'hébergement collectif. Et là, ce que je trouve très intéressant, c'est que, voilà, moi, je me suis intéressée aux personnes qui ont des déficiences motrices très importantes, qui ont besoin d'aide pour les gestes de la vie quotidienne et qui vivent en établissement. Mais finalement, je pense que ce que je raconte là peut tout à fait se transférer à ce qui se passe en maison de retraite ou à ce qui se passe dans plein d'autres lieux d'hébergement collectif. Donc difficulté du côté de la confidentialité, difficulté aussi parce que les personnes en situation de handicap disent on peut avoir peur de faire l'amour parce qu'on a peur d'être dérangé. Parce que on se rend compte à travers leur discours que finalement l'organisation du travail des professionnels dans ce lieu est en quelque sorte prioritaire sur l'organisation de la vie privée et intime des résidentes et des résidents. Un professionnel qui doit entrer dans une chambre pour ranger du linge ou pour faire le ménage peut taper rentrer. Frapper, rentrer. Et donc, c'est très difficile de préserver son intimité parce que c'est d'abord organisé pour le travail des professionnels.
C'est l'heure du kiné, quoi. Là, c'est l'heure du kiné. Le kiné vient.
Là, c'est l'heure de se lever. Là, c'est l'heure de prendre une douche, etc. Mmh. Et on se rend compte, d'ailleurs, ça fait pour moi partie des vraies difficultés que les personnes qui vivent en établissement, les personnes en situation de handicap qui vivent en établissement ont finalement très peu de contrôle sur leur existence. Elles décident très peu de choses. Elles ne décident pas ce qu'elles mangent, elles ne décident pas l'heure à laquelle elles se lèvent, l'heure à laquelle elles se couchent, elles ne décident pas le nombre de douches dont elles peuvent bénéficier par semaine, etc. Voilà. Donc, on se rend compte que avoir prise sur son existence, c'est très difficile quand on vit en établissement. Et donc ça rend difficile la possibilité de faire des expériences, de se dire ben, « je vais inviter quelqu'un la nuit puis faire une grasse matinée ». Non, c'est de l'ordre de l'impensable.
Mais du coup, ce que vous exprimez là, c'est finalement... Enfin, ce que j'entends, c'est quand même une question de liberté. Enfin, de cette liberté que les personnes en situation de handicap... n'aurait pas ou serait plus contrôlé sur l'accès, en effet, à l'intimité, à... Oui, une question de liberté. Est-ce que c'est... J'imagine que les professionnels aussi pouvaient le vivre comme ça. Est-ce que ça pouvait les déranger aussi de ces manières de faire, ça, c'est peut-être aussi ce que vous avez entendu.
Enfin... Oui. Alors, en tout cas, à l'endroit des accompagnants professionnels, ce qui ressort d'abord, dans les discours, c'est pas ce qu'on s'est dit précédemment pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire, c'est pas du côté du souhait, de l'aspiration, du plaisir, même si la réalisation est parfois difficile, c'est quand même la sexualité du côté des personnes en situation de handicap est investie comme quelque chose de positif. Du côté des accompagnants professionnels, ce dont ils et elles témoignent, c'est plutôt des difficultés, des problèmes, des déviances, des voilà. C'est-à-dire que la sexualité du côté des accompagnants est plutôt marquée du sceau du négatif finalement, ou de la négativité même. On pourrait presque aller jusque là. Et donc ces professionnels témoignent de leur difficulté finalement à pouvoir accompagner. Jusqu'où je peux aller? Est-ce que c'est bien à moi de faire ça? Qu'en est-il quand ils parlent par exemple des personnes en situation de handicap qu'ils accompagnent? Évidemment, ils repèrent des personnes qui sont en couple. Et ben quand ils présentent ces couples, c'est plutôt des couples qui sont un peu étrange, un peu bizarre, un peu mal accordé, etc. Comme si ces couples-là étaient un peu déficients, en quelque sorte. Voilà. On est plutôt sur un registre... Et puis, ils s'inquiètent beaucoup des responsabilités qu'on pourrait leur attribuer s'ils accompagnaient. Voilà. Et ils ont l'impression de devoir prendre une très grosse responsabilité pour accompagner autour des dimensions de l'intimité, de la conjugalité et de la sexualité. Ce qui m'a beaucoup étonnée dans mon travail de recherche, c'est que les professionnels, finalement, quand ils parlent des personnes en situation de handicap qu'ils accompagnent, ne mentionnent pas le sentiment amoureux. Il mentionne des couples, voilà, plus ou moins accordés. Il parle de personnes qui ont des demandes du côté de la sexualité qu'ils ont du mal à réaliser. Voilà. Mais jamais le sentiment amoureux n'arrive comme étant quelque chose qui est mentionné. Et quand j'ai travaillé sur leur discours, le seul moment où cette mention du sentiment amoureux est faite, c'est finalement quand ils disent « Ah, mais il y a un résident ou une résidente qui est amoureux de tel ou tel professionnel. » Et c'était très intéressant pour moi de me rendre compte que finalement, l'amour n'arrive que quand, en tout cas dans leur discours, n'arrive que quand il est adressé à des professionnels qui sont bien embêtés pour y répondre, qui estiment, et d'ailleurs à juste titre, que ça n'est pas à eux de répondre à ces élans amoureux en quelque sorte. Mais par contre, jamais ils ne les repèrent entre deux personnes en situation de handicap ou à l'égard d'autres personnes. Ça fait, à mon avis, partie des éléments très forts que je découvre dans mon travail de recherche. Un autre élément, pardon, qui arrive de façon forte et qui me paraît important d'indiquer ici, c'est à quel point les contraintes liées à la vie en établissement ne sont pas prises en compte, ni par les personnes en situation de handicap qui résident, ni par les professionnels qui accompagnent. On ne considère pas que vivre en établissement avec tout ce qu'on s'est dit peut constituer une contrainte et donc nécessiterait d'être transformé. Voilà. D'accord. Finalement, ça, c'est très peu pensé.
Ouais. D'accord. D'accord.
Très peu pensé.
Alors peut-être que du coup, votre travail, vos travaux de recherche, la diffusion qu'il y a de ces travaux peut aider des équipes à travailler justement sur cette question. On va être obligé de s'arrêter là. Merci beaucoup, Jennifer Fournier. Alors, si les auditeurs et les auditrices de Radio B veulent poursuivre, connaître vos travaux, vos éléments de recherche, et puis aussi entendre quand même parler d'amour chez les personnes en situation de handicap, du coup, je fais le lien avec votre ouvrage. Qui s'appelle « Expérience du handicap et de la sexualité » aux éditions ERES, donc de Jennifer Fournier. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
À bientôt. Au revoir. La voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire.